Shalom, et nous continuons notre pénétrante et passionnante étude du Orot HaKodesh du Rav Kook. Et je vous invite ici à un petit parcours dans le deuxième volume à propos de la mort. Sujet passionnant, peut-être pas très réjouissant, mais très important étant donné que la mort fait partie de notre curriculum vitae à tout le monde. La mort est un sujet que l'on évite. On ne veut pas trop en parler parce que ça angoisse. Eh bien, c'est justement de cela dont me parlait le Rav Kook, le scandale qu'il y a dans l'idée de mort, dans l'angoisse qui nous habite à l'approche de l'idée de la mort. Et il faudrait, et on peut dire que la mort va exactement à l'encontre de l'optimisme fondamental qui se dégage de l'ensemble du judaïsme. Et comment effectivement une spiritualité optimiste fondamentalement comme le judaïsme affronte-t-elle ce fait que finalement tout disparaît? Vous connaissez évidemment le dogme de la résurrection des morts qu'il y a dans le judaïsme. Que signifie ce dogme? Ce dogme, en fait, est quelque chose d'extrêmement logique d'un point de vue purement monothéiste. Parce que ça veut dire, si les morts ne ressuscitent pas, alors ça veut dire que c'est la mort qui est la puissance la plus grande dans notre monde. Et donc, finalement, face à Dieu qui donne la vie, il y aurait une sorte de puissance obscure qui engloutit tout et qui fait que la vie, finalement, ne peut pas vaincre, que la vie ne peut pas gagner la partie. Ce qui entraîne, si on y réfléchit bien, une sorte de dualisme théologique qui correspondrait justement à ce que disaient les anciens, comme quoi il y aurait un dieu de bonté et un dieu du mal qui s'affronteraient l'un l'autre, ce qui, du point de vue du judaïsme, est tout à fait inacceptable. Vous connaissez le verset de Isaïe qui dit « Yotzer or uvorechosher » « Il est le formateur de la lumière, le créateur de l'obscurité »« Ose shalom uvorera » « Celui qui fait la paix et qui crée le mal » Ani Hashem, Ose, Kol, Ele. Je suis l'Éternel qui a fait tout cela. Donc, Dieu s'attribue à lui-même la création du mal, ceci dans une optique, évidemment, monothéiste, mais donc, par conséquent, optimiste. Un de nos maîtres, Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, disait, où est-ce que la Torah a-t-elle parlé du Olam Haba, du monde à venir? Eh bien, elle en a parlé dans le premier verset de la Torah. Étant donné que la Torah nous dit, Bereshit bara Elohim, au début, Dieu a créé. Alors, si c'est vraiment Dieu qui a créé tout ça, est-ce qu'il peut accepter la situation de la souffrance universelle telle que nous la voyons devant nous? Si Dieu a créé tout cela, c'est donc que tout cela ne peut être que momentané, éphémère, et qu'un jour, ça sera réparé. Donc, si ça doit être réparé, tout doit être réparé, toutes les chutes doivent finalement être réhabilitées, et donc ça veut dire que même la mort sera un jour vaincue. Et donc, la résurrection des morts, de ce point de vue-là, est la conséquence directe, logique et obligatoire de la foi monothéiste, si on la prend vraiment au sérieux. Et donc, on ne peut pas admettre la mort comme quelque chose d'éternel. Il est remarquable de voir que du temps du Rav Kook vivait un philosophe d'origine juive, mais de culture occidentale, Henri Bergson, qui lui aussi avait développé cette idée-là que l'évolution créatrice était telle dans le monde que viendra un jour où non seulement l'évolution réussira à donner une forme de vie supérieure, mais qu'elle dominera également la mort elle-même. Intéressant de voir que le Rav Kook a été mis au courant de l'opinion de Bergson. Un certain docteur Kaminka, qui faisait des recherches sur la philosophie occidentale, a écrit au Rav Kook, vous savez, maître, il y a des correspondances entre ce que vous dites, vous, et ce que dit Henri Bergson. Réponse du Rav Kook dans une de ses lettres. Il dit, je suis heureux de voir qu'il y a des correspondances entre mes pensées et ce qu'il y a de meilleur chez les fils de Japhet, c'est-à-dire le fils de Noé, mais il faut que tu saches que toutes mes pensées ont leur origine dans les tentes de Shem. C'est-à-dire, ce n'est pas un emprunt fait par le Rav Kook à la civilisation ou à la philosophie occidentale, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur du judaïsme. Effectivement, il y a un autre passage du Rav Kook, que nous étudierons peut-être une autre fois, dans lequel le Rav présente la différence qu'il y a entre l'évolution telle que lui la comprend et telle que la comprend justement Bergson. Bergson est appelé par lui « hama apilim amodernim », c'est-à-dire les ascensionnistes aveugles de la modernité. Pourquoi ? Parce que vous connaissez la thèse de Bergson qui est que le monde serait le fruit d'une sorte d'élan vital, une sorte de flèche qui aurait été tirée à l'origine de tout être, qui fait que la vie continue à avancer, mais on ne sait pas vers quoi elle avance. C'est comme s'il y avait une pulsion qui venait du passé et qui pousse vers un avenir inconnu. Donc il y a le monde avance à la manière d'une taupe qui continue sa marche sans voir vers où elle va. C'est ça que le Rav Kook appelle l'obscurité qui se trouve, ou l'obscurité ou l'aveuglement que l'on trouve chez les ascensionnistes modernes, et il met entre parenthèses le nom de Bergson. Par contre, pour le Rav Kook, ce qui entraîne l'ascension de la vie, l'élan vital, ne vient pas d'une pulsion du passé. Ça vient d'une pulsion de l'avenir. C'est-à-dire c'est l'avenir qui aimante la vie, de sorte que nous savons vers quoi nous allons. C'est comme si nous lancions une flèche métallique vers une cible aimantée. Et donc nous savons à l'avance vers quoi nous arrivons. C'est donc optimiste fondamentalement. Mais il y a quand même une proximité entre les deux formulations, ce qui est intéressant en soi. Rappelons une chose importante, c'est que la Torah, de manière surprenante, donne un encouragement à la vie. Vous connaissez ce texte de Devarim, dans lequel la Torah nous dit « Ahaim ve'amavet natati lefanecha »« J'ai mis devant toi la vie et la mort »« Uvacharta b'chaim »« Il faut que tu choisisses la vie » Et pourquoi donc ?« Leman tichye »« Afin que tu vives » Pléonasme. Il faut que tu choisisses la vie afin de vivre. Ata vezaracha, toi et ta descendance, à la Adama, sur la terre que Dieu te donne. Mais si on réfléchit bien dans la logique des mystiques que l'on trouve couramment dans le monde, on voit que ce que dit la Torah n'est pas du tout banal, pas du tout trivial. En effet, dans toutes les religions et dans toutes les spiritualités de l'histoire, il y a une sorte de spiritualisme qui cache en lui une racine de mort. En effet, la proximité de la divinité implique l'abandon de ce monde. Et ce que les religions en général encouragent l'homme à penser, c'est que d'une certaine manière, il est bon de mourir. Il est bon de s'arracher à la vie basse de ce monde pour rencontrer à nouveau la source de la vie et pourquoi pas se fusionner avec le divin. Ce qui est une manière très polie et très belle de dire qu'il est bon de mourir. Tandis que dans la Torah nous a dit qu'il vaut mieux vivre que mourir. Ça veut dire que la rencontre avec le Créateur peut se faire à travers le monde. Je tiens à rappeler ici un verset de la paracha de Vaetranan, dans lequel Moïse, quand il parle de la réaction du peuple après la première révélation au Sinaï, quand Dieu parle pour la première fois à tout le peuple est effrayé, et ils disent à Moïse, l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix de l'intérieur du feu. En ce jour, nous avons compris que l'Éternel peut parler avec l'homme et qu'il reste en vie. Alors maintenant, à quoi ça sert de mourir ? Très important, ça veut dire que le peuple pensait jusqu'à présent que ça valait la peine de mourir, puisque c'est le prix à payer pour rencontrer l'Éternel, donc ça vaut la peine. Mais si nous sommes capables d'entretenir une relation de face à face avec le Créateur à travers la vie de ce monde, alors à quoi ça sert de mourir? Donc ils disent à Moïse, il vaut mieux ne pas mourir, effectivement c'est ce que nous dit la Torah, « Uvacharta b'chaim », tu dois choisir la vie pour rencontrer l'Éternel dans la vie d'ici-bas. À partir de ces considérations, on peut comprendre l'optimisme sérieux du judaïsme qui engage, par exemple, à rencontrer Dieu à travers le repas du Shabbat, que ce soit du gefilte fish ou du couscous ou tout autre aliment de ce genre. C'est-à-dire, c'est la vie concrète, la joie de la vie qui permet la rencontre avec le Créateur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas du Olam Haba, mais je ne sais pas si vous avez remarqué quand même que dans la Bible, le Olam Haba, le monde à venir, est tout à fait éclipsé. Rabbi Yehuda Halevi, dans son Kuzari, nous explique que c'est parce que l'essentiel du projet d'Israël, c'est de rencontrer le Créateur dans la vie, dans la vie même politique du peuple d'Israël. Ce n'est que parce que nous avons connu la destruction du Temple et le départ de la Shekhina de notre monde, la présence divine a cessé de se manifester à un moment, que la vie de l'au-delà a pris de l'importance dans la conscience d'Israël. Mais remarquez une chose quand même assez remarquable, c'est que depuis que le peuple juif est revenu sur sa terre, et que donc il ressent instinctivement, intuitivement, que la connaissance de Dieu peut se faire à travers la vie, eh bien la croyance dans le Olam Haba a commencé à diminuer, par exemple, dans la société israélienne. Quand on interroge les Israéliens, c'est statistiquement prouvé, est-ce qu'ils croient dans un monde à venir ? Oh ben, nous avons une faible proportion de ceux qui y croient. Quand même, signe d'optimisme, nous voyons qu'il y a encore moins de personnes qui croient en l'enfer que de personnes qui croient au paradis. C'est quand même assez optimiste. Maintenant, revenons donc à notre texte du Rav Kook. Le Rav Kook nous parle de la crainte qu'inspire la mort aux hommes. Et là, nous avons ici une série de petits chapitres dans la page Shinpei 380. Et suivante dans Orot HaKodesh, deuxième partie. Je vous lis ici le chapitre même, dans la partie appelée Ahayut HaOlamit, c'est-à-dire la vitalité universelle. Chapitre même, chapitre 40, Chézion HaMavet, la vision de la mort. Et que nous dit le Rav Kook ? HaMavet Hu Chézion Shav. La mort est une vision mensongère. Tum Ato, l'impureté de la mort, Ishikro lui vient de son mensonge. Ma shebene Adam korim mavet, ce que les hommes appellent la mort, hariu rak tigboret achaim vetatsumatam, n'est que le renforcement de la vie et leur puissance, et sa puissance. Umitoch hashekia atehomit bekatnut, ce n'est que par l'engloutissement abyssal dans la petitesse, Asher yetzer leva adam ishkia otoba, dans laquelle le mauvais penchant de l'homme l'entraîne, harehu metzayer et tigboret achaim azot, betzura madiva vachashucha, veu koram mavet. C'est pour cela qu'il représente cette abondance de vie d'une manière affligeante et obscurcissante et qu'il appelle la mort. Mitalim et makohani bikdushatam. Les prêtres s'élèvent dans leur sainteté. Vous savez que dans la tradition chrétienne, par exemple, quand est-ce qu'on fait appel à un prêtre ? C'est quand on est à l'article de la mort. C'est-à-dire le prêtre est là pour permettre de mourir avec la suprême onction et tout ce que ça implique. Eh bien, vous savez que d'après la halakha, c'est exactement le contraire chez les juifs. Un kohen, un prêtre, n'a pas le droit d'être en contact avec les morts. Si quelqu'un est en train de mourir dans une maison, on fait sortir le kohen. C'est-à-dire le kohen est un personnage qui ne doit pas avoir un contact existentiel avec ce mensonge que la mort représente. Donc, nous dit le Rav Kook, « Mit'alim hem akohanim bigdushata me'akshava shikritzo » Les sages, les prêtres s'élèvent dans leur sainteté au-delà de cette écoute mensongère. « She'yev charli imalet yumena kolzman she'amemcha lakzavi kolkar sholet ba'olam » que l'on ne peut pas esquiver tant que l'empire du mensonge domine le monde. Kim be'avarat ha'enayim me'amachaze amivi et rishmeata alalu et la nefesh, ce n'est possible qu'en éloignant les yeux de cette tromperie de l'âme. Et c'est pourquoi la Torah nous dit al kol nafshot met lo yavo, il ne peut pas venir auprès des âmes des morts. Les nefesh, loitama, be'amav, il ne peut pas se souiller de l'impureté de l'âme, c'est-à-dire de l'impureté du cadavre. Et donc, les kohanim, nos prêtres, eux sont un exemple de vitalité. D'ailleurs, ce n'est pas seulement là-dedans, ce n'est pas seulement dans ce domaine-là que les kohanim sont liés à la vie. Vous savez que les kohanim également n'ont pas le droit d'épouser une femme divorcée, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de rencontrer l'échec. Vivre avec une femme divorcée, ça veut dire avoir rencontré une personnalité qui a connu existentiellement l'échec de la vie conjugale, et ça, pour le Kohen, c'est déjà trop. Ça va même encore plus loin. Le Kohen se nourrit des dîmes du peuple. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la difficulté de la subsistance. On peut dire que, d'une certaine manière, le Kohen vit dans une vie artificielle, qui l'éloigne des difficultés de la vie. Mais c'est nécessaire qu'il y ait une frange de la société qui soit au-delà des vicissitudes, des échecs de la vie, aussi bien d'ailleurs que des vicissitudes de la mort, pour justement conserver l'optimisme fondamental de la foi juive. Et c'est ça que nous dit ici le Rav Kook. Puis après, nous avons un autre chapitre, un peu plus long, le chapitre même Aleph, dans lequel le Rav Kook nous parle de sa grande idée de la libération que l'esprit humain doit connaître de la peur de la mort. Ashirur miyirat hammavet, la libération de la crainte de la mort. Je vous lis ici, bon, on ne va pas lire tout le chapitre, mais des morceaux choisis. Yirat hammavet, la crainte de la mort, hi machalat adam aklalit, c'est la maladie générale de l'homme. Uba'a, haba'a be'ekev achet. Cela lui vient comme conséquence du péché. Achet yatsar et amavet. C'est le péché qui a créé la mort. Ve'ateshuva, hi aterufa achat lachil otomina olam. C'est la teshuva, le retour du péché, enfin s'éloigner du péché. On appelle ça en français le repentir. C'est cela qui va guérir juste de l'horreur de la mort. Alors il y a ici tout un travail à faire. Ça ne se fait pas en un seul jour. Kol amala adam, toute l'œuvre, tout le labeur de l'homme, sovev veholechu, tourne autour de cela, lehinatzel min hamavet, être sauvé de la mort. Veloyavo le matrato, il n'arrivera à ce but, kim beagdilo et nishmato, qu'en agrandissant son âme, mimekora apnimi, à partir de sa source intérieure. Ashikua ba'afar achomriut, l'enfoncement dans la poussière du matérialisme, va'itlavut anafshit bechol arachea, et l'enthousiasme de l'âme dans toutes ses modalités, ou rak magdil et amavet, donne de la grandeur au monde. En effet, le Talmud, dans le traité de Moed Kata, nous dit que lorsque les méchants quittent ce monde, ils ont beaucoup de peine à cela, parce qu'ils ont le sentiment de quitter quelque chose de réel pour le néant. Tandis que les tzadikim, quand ils quittent ce monde, bon, c'est un peu dommage de quitter ses proches, mais après tout, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, on entre dans une sphère de vie encore plus grande. Pour le Rav Kook, il y a ici toute une série de processus que l'on doit traverser pour se libérer de la mort. Le premier, « Rosh lechol atrufot hi arichut ayamim ». La première de toutes les médications, c'est l'allongement de la vie. Comme on dit en pied noir, que le bon Dieu, il vous l'allonge. Ça veut dire que la longévité humaine, c'est déjà une première victoire contre la mort. Ce n'est pas la victoire absolue, mais c'est un début. Effectivement, la Torah nous promet que si nous respectons nos parents, par exemple, « Ve'arachtaya leman yarichun yamecha » afin que tes jours s'allongent, « Ala adama asher Hashem Elohecha notenlar » sur la terre que Dieu te donne. Aujourd'hui, ça se réalise. Israël est parmi les premiers pays du monde du point de vue de la longévité. Il y a un texte surprenant dans Maseret Nedarim, dans le traité de Nedarim, dans le Talmud de Babylone, à propos de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, comme vous le savez, était le grand maître d'Eretz Israël, à Tibériade, à l'époque où des grands maîtres tels que Rav et Shmuel avaient quitté Eretz Israël à cause des difficultés pour aller s'établir en Babylonie, c'est-à-dire pour sortir du cadre de l'Empire romain et byzantin, pour aller s'établir chez les Perses, où il semblerait que la vie de Torah était plus facile, ce qui a été le fondement du Talmud de Babylone. Rabbi Yochanan, lui, était resté en Eretz Israël et était fort critique par rapport à ce comportement. Et nous avons plusieurs remarques, parfois même incisives, de Rabbi Yochanan concernant les maîtres qui avaient quitté Eretz Israël. Et Rabbi Yochanan dit, mais enfin, j'ai entendu dire qu'il y avait des vieux en Babylonie, est-ce possible, alors que la Torah dit, Leman yarichun yamecha ala adama, puisque la Torah dit, tes jours s'allongeront sur la terre que Dieu te donne. Donc comment cela est-il possible que nos maîtres aient la vie longue en galoute? Et on lui a répondu, c'est parce qu'ils se lèvent tous les jours, le matin et le soir, pour aller à la synagogue et à la maison d'études. Alors Rabbi Yochanan dit, ah, si c'est comme ça, ça va. C'est comme si la synagogue et la maison d'études, c'était ce qui reste d'Eretz Israël dans le cadre de la galoute. Remarquez une chose assez surprenante, c'est un phénomène que vous avez certainement constaté, c'est que dans les pays de la galoute, de la gola, de l'exil, eh bien, la prière le jour du Shabbat est longue. Et en Eretz Israël, c'est-à-dire facilement, par exemple, en France, s'il y a une bar mitzvah ou quelque chose de ce genre, eh bien, la prière prend au moins 4 heures d'affilée. Et après la prière, les gens ne sont pas pressés, ils font le kiddush, et après il y a un petit cours, et après, tout doucement, ils vont chez eux. En Israël, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais après 1h59, les gens commencent déjà à s'agiter de manière un peu gênée, comme ça, enfin, ça devient un peu long. Est-ce que ça voudrait dire que les Israéliens, chas v'shalom, n'aiment pas la prière? Non, non, pas du tout. C'est simplement parce que, en Chutz La'aretz, il n'y a que la synagogue qui est Eretz Israël. Et comme on aime Eretz Israël, on veut y rester le plus longtemps possible. Tandis qu'en Eretz Israël, c'est même en dehors de la synagogue. Et donc, on est pressé d'aller voir ce qui se passe en Eretz Israël. C'est pour ça que la prière est plus courte en Israël. Et ce n'est pas du tout parce qu'on méprise, chas v'shalom, la prière. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, quand vous priez dans votre langue, c'est tout à fait différent de ce que lorsque vous priez dans une langue religieuse. Alors, donc, je reviens ici au texte du Rav Kook. La première des médications, la première guérison de la crainte de la mort, c'est d'allonger la vie. Effectivement, en Eretz Israël, la vie s'allonge. Mais il y a encore plus que cela. C'est de savoir considérer la dimension morale qui est liée à la vie et à la mort. Je lis ici le texte. Arichut ayamim ba al yedei tikun ha'chaim. L'allongement de la vie vient à travers l'aménagement de la vie, bechol muvanam, de tout point de vue, c'est-à-dire également du point de vue biologique, ou virchud, mais en particulier, be'amuvan amusari ha'olech umitrachev, d'un point de vue moral. Vous savez qu'au début du XXe siècle, on avait fait la découverte des microbes. Et dans un texte de jeunesse du Rav Kook, il dit, on a découvert que les maladies venaient des microbes, mais on n'a pas expliqué d'où viennent les microbes. Et il dit, le monde découvrira encore un jour que les microbes sont peut-être nés de la chute morale de l'homme. Il n'y aura plus de microbes le jour où l'homme aura réglé ses problèmes de moralité. D'ailleurs, à ce propos, il est important de comprendre qu'est-ce que c'est que la morale dans la définition qu'en donne le judaïsme. Du point de vue du Rav Kook, dans son livre Orot, ce qui est moral, c'est ce qui amène abondance de vie. Et ce qui est immoral, c'est ce qui amène une réduction du champ de la vie. Alors, ce n'est pas toujours évident au premier abord. Parfois, pour permettre l'abondance de la vie, on doit faire la guerre. Parfois, donner la vie peut faire du mal. Mais si on parle ici d'une règle générale, un critère absolu, ce qui donne abondance de vie est moral, ce qui restreint le champ de la vie est immoral. Et donc, viendra un jour où l'on comprendra la relation entre la moralité et la vie, et ça sera une deuxième victoire contre la mort. Et puis, il y a une troisième manière de vaincre la mort, c'est de connaître la vitalité qu'il y a dans la collectivité. Nous appartenons à une collectivité, celle par exemple du peuple d'Israël, pour ceux qui sont juifs, et le fait qu'il y ait une permanence de l'être d'Israël au niveau collectif est également une manière de dominer la mort. C'est la raison d'ailleurs, la raison profonde du commandement de la Torah d'avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est surmonter l'entropie, c'est surmonter le pouvoir de la mort, parce que on pourrait dire que la pensée humaine commence dans une génération, continue dans l'autre et finit dans une troisième. C'est-à-dire, nous n'avons pas tellement de temps pour bien réfléchir, nous n'avons que 120 ans, et dans la période de 120 ans, le temps où nous pouvons sérieusement réfléchir est relativement court, mais on est capable de transmettre de génération en génération les réflexions, de sorte que l'accumulation de la pensée humaine au cours des générations permet d'arriver à la sagesse. Et donc il y a également cela, et il y a également le fait de connaître le sens véritable de la vie. Ce n'est pas toujours pour qu'une vie mérite d'être vécue, il faut être capable de sacrifice. On pourrait dire à la limite, celui qui est capable de sacrifier sa vie, c'est donc que sa vie a un sens, et donc il faut qu'il vive. Il y avait, vous avez dans la Torah le cas tout simple par exemple, de notre ancêtre Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu était prêt à se présenter sur l'autel, il était prêt à faire le sacrifice de sa vie. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, non, il faut que tu descendes de l'autel, il faut que tu vives. C'est-à-dire, la vie biologique en soi n'est pas la valeur absolue, c'est une valeur, mais elle n'est pas absolue. Elle est parfois sacrifiée pour des valeurs qui la dépassent. Par exemple, si on me demande de pratiquer l'idolâtrie ou la débauche ou l'homicide, je dois être capable de donner ma vie plutôt que de faire des choses qui dégradent la vie. Et si effectivement je suis prêt à cela, alors ma vie a un sens. C'est la raison pour laquelle il faut que Yitzhak vive, il faut que le peuple juif qui est capable justement de don de soi vive éternellement. Je saute ici quelques lignes. Je passe ici au chapitre Membet. Et il y a ici des très belles phrases du Rav Kook. Hamavet babe ekev achet, la mort vient à cause du péché. Loulé achet akadmon, sans le péché de l'origine. Loulé alacha adam achet avota vabeimiot, si l'homme n'avait pas été entraîné à travers ses instincts animaux, aita atrusha ruchanit mufia ala berovora, le sentiment spirituel serait apparu dans sa plénitude, et donc l'homme n'aurait pas connu la mort. Et effectivement, le lien qu'il y a entre l'âme et le corps, qui est un lien ténu, puisque ça se finit en général par la mort, c'est un lien qui, si on sait l'entretenir, devient un lien éternel. Et là, je voudrais amener ici en conclusion une petite phrase du Rav Kook, très belle. « Hamavet mumhu bayitzira » « La mort est un défaut dans la création. »« Yisrael no'ad leha'aviro » « C'est Israël qui est destiné à le faire disparaître. » Herpata'am hilano, c'est une honte nationale pour nous. Verherpata'amo yasir me'alkol ha'aretz, il amène ici un verset d'Isaïe, il fera disparaître la honte de son peuple de toute la terre, ki Hachem diber, car l'Éternel a parlé. Donc on voit que l'approche de la mort du point de vue du Rav Kook est finalement une approche qui est pleine d'enseignements et qui nous amène à aimer intensément et profondément la vie. Shalom.